Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Il m'arrive parfois de penser que beaucoup d'affaires criminelles se ressemblent. Mais pas celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui est vraiment à part. Il s'agit de l'enquête sur le meurtre en juillet 1991 à Clairac dans le Lot-et-Garonne d'une jeune fille de 18 ans qui s'appelait Caroline Nolibé. C'est une enquête qui a duré 10 ans et c'est un cas d'école car elle cumule tous les défauts d'une mauvaise enquête. À étudier dans les centres de formation de la gendarmerie et de la police. Le podcast est à votre disposition. Voici donc l'enquête sur le meurtre de Caroline Nolibé que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
C'est l'histoire d'une gamine de 18 ans que l'on retrouve mourante et puis finalement morte devant sa porte, un soir. Caroline Nolibé. Ce que je vais vous raconter maintenant, à ce stade... Je ne sais pas si c'est la vérité. C'est ce que raconte le père, Claude Nolibé. C'est lui qui l'a découverte. Le 31 juillet 1991, le père est chez lui, à Clairac, dans le Lot-et-Garonne. Et vers 23h, il entend des gémissements dehors. Au début, il croit que c'est le chien, d'autant plus qu'il est malade. Alors il regarde par la fenêtre et il voit une masse sombre devant le portail de son pavillon. Il se dit c'est le clébard. Alors il sort, et ça n'est pas le chien, c'est sa fille. C'est Caroline qui est là, couchée sur le sol, face contre terre, la tête accrochée au portail par sa cravate. Il s'approche. Caroline ? Il détache la cravate du barreau du portail, il la retourne, elle est couverte de sang. Mais elle respire.
Caroline !
Alors il court à l'intérieur de la maison... Il veut appeler les secours, mais son téléphone est verrouillé. Il panique, il essaye de le déverrouiller, il n'y arrive pas, alors il court chez son voisin. Il sonne. Claude, mais qu'est-ce qui se passe?
Je crois qu'on a tué ma fille.
Le voisin tout de suite appelle un médecin et il va voir sur place. Et elle est là, couchée près du portail. Il se penche, elle ne respire plus. Le docteur arrive, Caroline est morte. Le voisin appelle tout de suite la mère, Christiane. Les parents sont séparés et c'est le médecin qui appelle les gendarmes. Et quand ils arrivent, ils découvrent la scène de crime. Entre-temps, le père a dépendu la gamine. Les gendarmes la trouvent couchée sur le dos.
À mon avis, là, tu vois la plaie sur le thorax, là. À mon avis, c'est un coup de couteau. Hein.
Et puis là, les gendarmes se tournent vers le père.
Monsieur Nolibé, vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances vous avez découvert le corps de votre fille?
Il raconte. Il explique comment il a retrouvé sa fille, vivante, comme pendue au portail. Et puis les gendarmes font le tour de la scène de crime. Alentour, il n'y a pas d'armes du crime, il n'y a pas de couteau. Il n'y a pas non plus de traces de lutte. Mais là, près du portail, il y a une trace de semelle. Et puis quelques mégots. Et près du corps, le parapluie de Caroline. Tout ça est saisi, glissé dans des sachets plastiques pour le labo. Je vous le dis tout de suite, dans quelques heures, il va se mettre à pleuvoir. Il n'y aura rien d'autre à tirer de cette scène de crime. Et puis les gendarmes vont vers la maison.
Dis donc, t'as vu là, sur le volet? On dirait du sang, ça, non?
Une trace de sang sur le volet droit. Une fois à l'intérieur, du sang, ils en trouvent aussi sur le sol de la véranda, sur une table, sur un interrupteur et sur le téléphone. Les gendarmes se disent, c'est le père. C'est le père couvert de sang qui a dû serrer sa fille contre lui et qui a mis du sang partout. Et comme il est là, il lui demande de confirmer.
Le sang là sur l'interrupteur, c'est vous qui l'avez mis ?
La réponse du père est confuse. Oui, peut-être, il sait pas, c'est possible, il se souvient plus. Et puis ça se complique pour lui avec l'histoire du téléphone. Il dit que le téléphone était verrouillé et que dans la confusion, il n'est pas arrivé à le déverrouiller et que c'est pour ça qu'il est allé téléphoner chez le voisin. Bon, en soi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais le médecin, qui prévient les gendarmes, dit qu'il n'a eu aucun mal à téléphoner, qu'il n'a rien eu à déverrouiller. Bref, vous l'avez compris, au tout début de cette histoire, le père est dans le collimateur. Je vous ai parlé des traces de sang sur le volet et du téléphone verrouillé qui ne l'était pas vraiment. Eh bien, il y a autre chose qui conduit à braquer les regards vers le père. Les clés, le trousseau de clés de Caroline. Savez-vous où on le retrouve? Sur la porte d'entrée, à l'intérieur.
Monsieur Lolibé, comment se fait-il que les clés de Caroline soient là? Mais vous savez, les clés... D'habitude, on les met dans le sac à pain, à l'extérieur. Elle comme moi, hein. En rentrant ce soir, j'ai dû me tromper. J'ai dû prendre son trousseau, c'est tout.
Mouais. Sauf que la mère, qui a vu Caroline en fin d'après-midi, raconte une autre histoire.
Elle est passée chez moi avant de rentrer chez son père. Et elle avait ses clés. Elle a posé son trousseau sur la table en arrivant. En fait, je me souviens, elle a un porte-clés en forme de cœur. Je le vois sur la table.
Et alors? Comment ces clés se retrouvent-elles sur la porte, à l'intérieur? Pourquoi le père raconte-t-il cette histoire de sac à pain? Le lendemain, le père est placé en garde à vue. Et lui, le naïf, au début, il ne réalise pas qu'on le soupçonne. Et puis les questions se font de plus en plus pressantes. Et il commence à comprendre que les gendarmes pensent qu'il a pu tuer sa fille. Notamment... à cause de cette histoire de clé. Et il comprend que les gendarmes se demandent si le meurtre de Caroline n'a pas eu lieu dans la maison. Et si ensuite on n'a pas tiré le corps dehors. Et qui? Eh ben lui. Le père. Mais bon, il est tout de même relâché. N'empêche que Clairac, c'est un petit village, hein. Et les gens...
Paraît que le père, il était couvert de ça. Ah oui. Couvert de la tête aux pieds. À mon avis, c'est lui.
L'autopsie a lieu 5 jours après. Je sais, c'est beaucoup, mais on est en pleine vacances d'été. Le légiste étudie d'abord la plaie sur le thorax. Et il confirme que c'est un coup de couteau. Le couteau a sectionné une côte au passage, il a perforé le péricarde, et il a terminé sa course dans le ventricule droit du cœur, sans le traverser. La plaie est perpendiculaire. Elle fait 4 cm de large.
À mon avis, la mort n'a pas été instantanée, hein. Il est vraisemblable qu'elle soit survenue, je dirais, 10-15 minutes après le coup de couteau.
Ça n'est pas la seule plaie. Il y a aussi un coup sur la paupière supérieure gauche et un coup sur l'arête du nez. Mais pas de signe de strangulation, pas non plus de signe de violence sexuelle. La toxicologie est négative, ça veut dire que Caroline n'était pas droguée. Donc on résume. Son agresseur la frappe, bim, bam, et il lui plante son couteau dans le cœur. Qui est venu seriner cette gamine sur le seuil de sa porte? Et pourquoi? Caroline était une enfant de Clairac, 3e d'une famille modeste. Le père est cariste en usine, la mère est ouvrière agricole. Les deux aînés ont quitté la maison. La mère, récemment, a refait sa vie. Et Caroline a fait le choix de rester vivre avec son père, tout en restant très proche de sa mère, hein. Elle la voyait presque tous les jours. À 18 ans, Caroline était devenue, chez son père, la femme de la maison. Elle faisait les courses, le ménage, les comptes. Elle travaillait à la chaîne dans une usine de conditionnement de haricots verts. Un petit copain? Non. Enfin si, elle en a eu de ci, de là, mais pas longtemps. Rien de sérieux. Alors on tente de reconstituer l'emploi du temps de Caroline durant la soirée du meurtre. Elle devait aller à une fête avec sa copine Valérie. Mais la Valérie en question raconte qu'elle passe la chercher en début de soirée. Elle n'est pas là. Et le père ne sait pas où elle est.
Oh, je sais pas où elle est, moi. Elle a dû aller dîner chez sa mère, ou alors chez son copain, là, Albert.
La copine Valérie part donc seule à la fête. Pendant ce temps-là, Caroline est en effet chez son copain Albert. Ils dînent ensemble, vers 20h. Le copain Albert raconte qu'à la fin du repas, il la ramène en mobylette chez sa mère. Il est alors 21h30, 21h45. La mère confirme. Et elle dit qu'après, vers 22h10, Caroline rentre chez elle, enfin chez son père, à pied. Il lui faut 10 minutes pour aller de chez sa mère à chez son père. Elle arrive donc devant chez elle à 22h20. Qui l'attend? Qui l'a suivi? À Clairac, il y a 2000 habitants. Mettez-vous à la place des gens. Le père a été placé en garde à vue. Pas simplement interrogé, en garde à vue. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ils n'ont pas fait ça pour rien. Patati patata, c'est un village qui s'est mis dans la tête que Claude Nolibé avait tué sa fille Caroline et qui n'est pas prêt de se l'enlever de la tête. Mais je vous l'ai dit, les gens de Clairac, pas tous, hein, mais beaucoup, se disent « il n'y a pas de fumée sans feu, il n'est pas blanc-blanc, le papa ». Et à la moulinette de la rumeur, la pauvre Caroline en prend aussi pour son grade.
Elle fréquentait des gitans. Ah ça si, si, si. Elle était tout le temps droguée. Je vous l'assure. Bon, la Caroline, là. C'est ce qu'on appelle une fille facile. Enfin, vous voyez, quoi.
Il y en a même qui disent qu'elle se prostituait. Et d'autres, tenez-vous bien, qu'elle entretenait avec son père une relation incestueuse.
Nolibé. Il a perdu sa deuxième femme.
Et les gendarmes, ça? Eh bien, ils sont obligés de le vérifier. Et je vous le dis tout de suite, pour ne pas salir plus longtemps la mémoire de la pauvre Caroline, tout ça est faux et archi-faux. Les obsèques de Caroline ont lieu le 7 août à l'église de Clairac. Tout le village est là, y compris les langues de pute. Et bien sûr, les gendarmes sont là aussi, et à l'église, et ensuite au cimetière, ils observent les uns et les autres, et surtout le père. Parce que dans leur tête de gendarme, comme dans celle du patron de l'enquête, le procureur de la République de Marmande, c'est lui. Ils n'ont pas encore de preuves, pas assez d'arguments pour le coffrer, mais c'est lui. Valérie, l'amie de Caroline, qui est venue la chercher le soir du meurtre, est réinterrogée. Les gendarmes veulent mettre au clair cette histoire de clés.
Quand vous êtes venu la chercher, vous vous souvenez s'il y avait des clés sur la serrure de la porte d'entrée?
Oui, oui, il y avait bien des clés.
Et tu saurais reconnaître le trousseau de clés qui était à ce moment-là sur la serrure?
Ah oui, ce que je peux vous dire, c'est que c'était pas les clés de Caroline.
Intéressant. En début de soirée, donc, le trousseau du père serait sur la porte. Et en fin de soirée après le meurtre, ce serait celui de Caroline. Qui aurait pu jouer à cet étrange changement de clé, si ce n'est le père? Alors le 12 août, le père est à nouveau placé en garde à vue. On est en 1991, il n'est pas prévu d'avocat. Les gendarmes la jouent donc à l'ancienne. Ils veulent le faire craquer. Faute de preuves, ils veulent des aveux. Alors au début de la garde à vue, ils tracent un cercle au sol à la craie. Et ils mettent Claude Nolibé au milieu.
Bien. Vous avez interdiction de sortir de ce cercle.
On est en plein mois d'août. Il fait chaud.
Je pourrais avoir à boire, s'il vous plaît.
Un gendarme se lève, va remplir un verre d'eau et il le pose à l'extrémité de la table.
Tu auras ton verre d'eau quand tu nous auras dit enfin la vérité.
Mais lui, il reste droit dans ses bottes.
Enfin, je n'ai pas tué Caroline, je n'en aurais même pas eu l'idée.
Et pendant toute la durée de sa garde à vue, il ne bouge pas. Et à la fin, alors qu'il n'a rien avoué et qu'il n'y a aucune preuve, eh bien il est déféré devant le juge d'instruction et inculpé de meurtre. Et tant qu'à faire, écroué. Le 16 août, le juge ordonne une nouvelle perquisition de la maison. Pour l'occasion, les gendarmes vont chercher Claude Nolibé et ils le sortent de sa cellule. Et sur la route de Clairac, ils sont, comment dire, un peu déroutés par son comportement. Il y a de quoi, hein ? Le père est d'humeur badine. Il plaisante avec eux. Il leur raconte même une blague. Ça n'arrange pas ses affaires. Dans la maison, les gendarmes découvrent de nouvelles traces de sang, notamment une trace dans l'évier. Et dans la chambre de Caroline, ils tombent sur des vêtements encore tachés de sang, mais qui ont manifestement été lavés. Et ça non plus, ça n'arrange pas les affaires du père. Le juge missionne l'un des papes de la police scientifique de l'époque, Loïc Leribaud, qui rend son rapport le 18 août. Rapport dans lequel il relève un certain nombre de points. Le père dit qu'il a dépendu le corps de sa fille et qu'il l'a retourné. Alors pourquoi le cadavre, quand les gendarmes le découvrent, a-t-il les jambes croisées ? Deuxième bizarrerie. L'expert a examiné les giclures de sang sur le pantalon du père. Ça ne colle pas du tout avec ce qu'il dit avoir fait. Troisième étrangeté. Pourquoi a-t-il du sang de sa fille partout sur le bas du corps et pas sur le torse ? Enfin, dernier point inexplicable, vous vous souvenez qu'on a retrouvé du sang sur le volet droit près de l'entrée ? Le père dit qu'il a peut-être fait ça avec sa main. Or, il n'y a pas d'empreinte dans cette tache de sang. Il n'y a pas de trace de doigt. Cette tache semble avoir été faite par une surface lisse. Pourquoi pas la veste en cuir de Caroline ? Ce qui voudrait dire que Caroline entre dans la maison avant d'être assassinée. Et donc tout ça est accablant pour Claude Nolibé, qui essaye de s'expliquer.
Mais enfin, le sang sur mon pantalon, c'est quand je me suis penché sur elle pour écouter son cœur, pour voir si elle était vivante, je vous jure.
Et la trace de sang lisse sur le volet.
Est-ce qu'on peut pas imaginer qu'elle est agressée près de la porte, et puis qu'après coup elle s'appuie sur le volet, et qu'ensuite elle revienne vers le portail pour s'écrouler ? C'est possible, non ?
À son avocat qui s'étonne de le voir aussi serein en prison, Claude Nolibé dit
« Pourquoi est-ce que je hurlerai que je suis innocent ? Ils sont savants ! Ils vont bien finir par se rendre compte que c'est pas moi le coupable !»
Le 16 septembre, un mois et demi après le meurtre, nouvelle reconstitution devant la maison, où est placé dans la position du corps de Caroline un mannequin couvert de sauce tomate. Claude Nolibé est là, on lui demande de rejouer les gestes qu'il a accomplis la nuit de la mort de sa fille. Ça dure 7 heures. Et à un moment, la juge demande à Claude Nolibé de se saisir du mannequin comme il a saisi sa fille. Et là, il craque.
« Ah non ! Non, ça, vous me le ferez jamais faire. »
Silence dans la petite troupe de juges, de gendarmes, d'avocats et d'experts réunis autour de lui. Mais à partir de là, la juge se laisse gagner par le doute. Et le 27 septembre, contre l'avis du procureur, elle décide de libérer Claude Nolibé. Sans pour autant décréter un non-lieu, hein, il reste inculpé, mais libre. Il est temps de s'intéresser à une question, une seule. Pour quelle raison, quel mobile, le père aurait-il tué sa fille Caroline ? D'après l'expert psychiatre, Claude Nolibé entretenait une relation fusionnelle avec elle. Fusionnelle, une relation de quasi-dépendance, qui peut s'expliquer par son histoire personnelle. Né en 39 à Clairac, dans une famille de 6 enfants, Claude Nolibé a perdu sa maman quand il avait 9 ans. Il a été élevé par ses sœurs. Et ensuite, ses frères et ses sœurs sont morts les uns après les autres. Et puis son couple a volé en éclats. il ne lui restait plus que Caroline. Ça explique la puissance des liens qu'il avait avec elle. Tous ces racontars de village ne sont que des sornettes. Oui, Caroline avait de l'ascendant sur son père. Oui, elle jouait à la fois à la mère et à la fille. Oui, elle n'aimait pas qu'une femme s'approche un peu trop près de son papa. Mais c'était tout de même une belle relation père-fille. À partir de l'automne 1991, il ne se passe plus rien dans cette enquête. Le père reste inculpé, mais libre. Aucun nouvel élément ne vient nourrir le dossier. Et les années passent. 4 ans. Et à un moment donné, la juge doit faire un choix. Ou elle décrète un non-lieu, le meurtre de Caroline restera non résolu, ou bien elle renvoie le père devant la cour d'assises. Elle décide d'une troisième voie. Elle décide de relancer l'enquête. Une nouvelle équipe de gendarmes est nommée, qui pointe tout de suite une lacune. À 600 mètres de chez Claude Nolibé, se trouve un IME, un institut médico-éducatif, qui accueille des adultes handicapés mentaux. En rentrant de chez sa mère, le soir du meurtre, Caroline est forcément passée devant. Comment se fait-il qu'on n'ait pas exploré cette piste à l'époque? Alors on le fait, 4 ans après. Les gendarmes débarquent à l'IME et réclament la liste des résidents de l'époque. Ils étaient 5 à dormir sur place le soir du meurtre. Les 5 noms sont passés au fichier. Aucun n'a de casier judiciaire. Et la piste est refermée. Et à nouveau, sur la liste des suspects, il ne reste plus que le père. Le père qui a perdu tous ses amis. Le père à qui plus personne ne parle. Le père qui est montré du doigt dans tout le village. Et qui, à un moment donné, désespéré, finit par écrire au président de la République. Il va lui falloir 2 ans de plus, 1997, pour qu'enfin on prononce à son endroit un non-lieu pour insuffisance de charge. Il n'y en a aucune, en vérité, au dossier qui accuse le père. Mais comme le meurtre reste non élucidé, les gens continuent de penser que c'est lui. Et donc finalement, il est obligé de quitter Clairac, où pourtant il est né. Cette affaire serait sans doute restée impunie s'il n'y avait eu un coup de chance. En mai 2001, 10 ans après le meurtre, une femme de ménage de l'Institut médico-éducatif trouve sous un lit un petit bout de papier plié. Elle le déplie et dessus il est écrit « Je suis l'assassin de Caroline Nolibé ». Alors elle le transmet immédiatement à la direction de l'Institut qui prévient tout de suite les gendarmes. Et à partir de là, ça devient compliqué. La chambre où on a découvert le petit mot est occupée par un pensionnaire de 38 ans qui s'appelle Philippe Gendouze. C'est un peu le chouchou du foyer. Il est poli, attentionné, assez courtois. On s'aperçoit d'ailleurs au passage que son nom ne figurait pas sur la liste donnée en 1995 quand les gendarmes se sont brièvement intéressés à la piste de l'IME. On l'avait oublié. Bon. Le problème avec Philippe Gendouze, c'est qu'il a 7 ans d'âge mental. Il est placé là depuis 20 ans, depuis ses 17 ans. Il ne pose, disent ses éducateurs, aucun souci particulier. Ils disent même qu'il n'est pas loin de pouvoir vivre de manière autonome, dans un foyer ouvert. Il travaille d'ailleurs au CAT de l'Institut. Et il a une amoureuse, une pensionnaire de l'IME. Mais quand on passe son nom au fichier, on s'aperçoit que Philippe Gendouze a un passé. En 1985, soit 6 ans avant le meurtre de Caroline, il a agressé une jeune fille avec un couteau. Ça s'est passé à Saint-Nivrade, tout près de Clairac. Philippe Gendouze suit une jeune fille de 17 ans qu'il trouve jolie. Il a un couteau. Il saute sur elle pour la violer. Elle se débat, il la poignarde au ventre et il s'enfuit. En raison de son handicap mental, il est déclaré irresponsable pénalement. Il est interné en hôpital psychiatrique et puis quelques mois plus tard, il ressort de l'hôpital et il retrouve sa place à l'IME de Clairac. Et ce qui est étrange, c'est qu'en 1991, quand Caroline est assassinée, personne ne pense à lui. Il faut dire qu'elle meurt le 31 juillet et que l'IME ferme ses portes pour les vacances le 1er août. Et au retour des vacances, la vie reprend tranquillement et les gendarmes, obsédés par le père, ne vont pas plus loin. Alors est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est Philippe Gandouze qui a poignardé Caroline ? Le 30 mai 2001, 10 ans après le meurtre de Caroline, les gendarmes débarquent dans la chambre de Philippe Gandouze pour une perquisition. Quand il les voit, il se redresse sur son lit et il crie
« J'ai tué personne !»
Mais dans sa chambre, on trouve une sorte de journal de bord que les gendarmes feuillettent immédiatement. Et en 1992, il écrit « La fille Nolibé est morte. Elle s'est fait assassiner. Tuez la prochaine. Liste que je dois tuer. Liste que je dois agresser. » Et dans sa chambre, on trouve aussi 3 couteaux et un gant sectionné au poignet. Philippe Gandouze est immédiatement placé en garde à vue. Et il dit les choses le plus simplement du monde.
« J'ai noté la vérité sur le papier. »
Et après, il désigne le couteau qu'il a utilisé, un opinel. Et il explique que le gant lui a servi à masquer les empreintes.
« Je la voyais passer tous les jours devant ma chambre. Je la trouvais jolie. »
Alors il la suit, il la rattrape. Il la poignarde d'abord au cou et elle lui dit
« Mais qu'est-ce que je t'ai fait ?»
Et lui, il lui plante son couteau dans le cœur. À l'issue de son interrogatoire, Philippe Gandouze est présenté au juge, mis en examen et écroué. Quelques semaines plus tard, a lieu une reconstitution. Il se prête au jeu. Mais 3 mois plus tard, il se rétracte. Peu importe. Le juge le renvoie devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne et là, évidemment, se pose la question de sa responsabilité. Son retard mental peut-il lui éviter les assises ? On sollicite 3 experts psychiatres. Le premier dit qu'il est accessible à la sanction et qu'on peut le juger. Le deuxième dit tout l'inverse et le déclare irresponsable. Et le troisième, comme le premier, propose de le juger en tenant compte de l'altération de son discernement. C'est finalement la solution qui est retenue. Philippe Gandouze comparé devant les assises d'Agen le 10 janvier 2004. Il se retrouve dans le box un peu déconnecté, souriant, l'air pas inquiet. De toute façon, il est innocent.
La fille, là, je l'ai pas tuée, hein ?
On fait venir à la barre sa victime de 1985.
Ce jour-là, j'ai cru mourir.
Le personnel de l'Institut médico-éducatif vient dire qu'il était le plus doux du centre. Et à la fin, il se passe quelque chose d'extrêmement rare. Le père de Caroline est là, bien sûr. Pendant 10 ans, il a fait office de suspect. Il est fatigué, il est malade, il est au bout du rouleau. Et l'avocat général s'adresse à lui.
Monsieur Nolibé, je vous présente ici les excuses de la justice française. Au nom de tout ce que vous avez subi.
Et ensuite, il prononce ses réquisitions à l'encontre de Philippe Gandouze.
Je rappelle ici que les faits justifieraient une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, n'est-ce pas ? Mais bien entendu, nous tiendrons compte des déficiences de l'accusé. Je vous demande donc qu'il soit condamné à une peine de 13 à 15 années de détention.
La défense, bien entendu, plaide l'acquittement au titre du handicap mental. Et finalement, Philippe Gandouze est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Il ne fait pas appel. Pour avoir été injustement accusé et incarcéré, Claude Nolibé, le père, au bout du rouleau, obtient 50 000 euros d'indemnisation. C'est le prix d'une vie détruite et de 10 années de soupçons sans preuve.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.